Aujourd'hui, Babylone est un monceau de ruines. Mais en les fouillant, les archéologues ont trouvé les vestiges d'un royaume glorieux. La ville comprend alors 50 grandes avenues, qui en se croisant forment 625 places et 676 quartiers d'habitation où les maisons ont jusqu'à 4 étages. Un écrivain grec, Eusèbe de Césarée, écrit que pour plaire à son épouse, Amytis, originaire du pays montagneux et boisé de la Médie, le roi Nabucodonosor lui fait construire une colline artificielle de 120 mètres de haut, couverte de canaux alimentés par l'Euphrate, pour qu'elle puisse s'y promener et se rafraîchir. Il s'agit bien sûr de ces fameux jardins suspendus qui sont comptés parmi les 7 merveilles du monde antique. Construits à l'intérieur de la forteresse de Babylone, ils comprennent un ensemble gigantesque de terrasses érigées sur des voûtes. Les ruines de cette infrastructure sont encore visibles aujourd'hui et s'étendent sur une surface de 15 hectares. Sur la rive occidentale droite du fleuve se trouvait le temple de Bel-Nebo, une ziggoura de 7 étages probablement construite selon le modèle de la tour de Babel. Cette tour colossale est en briques et on accède aux étages par un escalier extérieur en colimaçon. Sur son chemin se trouvent plusieurs autels sur lesquels on offre des sacrifices d'animaux. Les Babyloniens sont alphabétisés et possèdent une bibliothèque bien garnie. Enfin, Babylone est entourée d'une muraille haute de 90 mètres et suffisamment large pour accommoder 8 chevaux côte à côte, sans qu'ils se gênent. En vue de cette description, il n'est pas étonnant que lorsque Nabucodonosor a rêvé d'une statue métallique qui représente les puissances terrestres, son empire soit symbolisé par la tête d'or. Babylone est réputée invulnérable car il n'est pas possible à une armée de l'attaquer de front et de la prendre en lançant un assaut. Mais elle n'est pas imprenable, puisque par ruse, les Mèdes et les Perses réussissent à s'en emparer. En effet, le talon d'Achille de la ville est l'Euphrate, le fleuve qui la traverse. Seulement, il ne suffisait pas de l'assécher temporairement afin d'accéder à ses murs. Il faut aussi que les sentinelles ne soient pas vigilantes et que les portes d'accès de la ville restent ouvertes. Et c'est exactement ce qui est arrivé. En fait, la prise de Babylone est sous-entendue dans la vision de la statue de Nabucodonosor et dans la vision de Daniel qui voit plusieurs empires se succéder l'un l'autre. Dans leurs visions respectives, ces deux personnages ont bien vu que Babylone est suivie par l'empire des Mèdes et des Perses. Je continue de lire dans le chapitre 7 du livre de Daniel. Au cours de la première année du règne de Balthazar, roi de Babylone, comme Daniel était couché sur son lit, il eut un rêve. Il s'agissait de visions. Il consigna le rêve par écrit pour en raconter l'essentiel. Voici le récit de Daniel. Au cours de mes visions nocturnes, je regardais, et voici que les quatre vents du ciel agitaient la grande mer. Alors que dans les 6 premiers chapitres du livre, Daniel parle à la troisième personne du singulier, dans les 6 suivants, il s'exprime à la première personne parce qu'il raconte la révélation que Dieu lui donne. Dans cette vision, il voit d'abord 4 vents du ciel qui agitaient la grande mer, c'est-à-dire la mer Méditerranée, ce qui veut dire que la vision concerne le monde méditerranéen. Dans la mythologie cananéenne, la mer est divinisée et représente le chaos, car c'est le lieu où habite le monstre marin, le Léviathan, qui personnifie les puissances du mal. Dans les Écritures, par son immensité et sa mobilité, la mer symbolise généralement la masse de l'humanité et surtout le monde païen en révolte contre Dieu. Dans une vision, l'apôtre Jean voit un ange qui lui dit « Viens ici, et je te montrerai le jugement de la grande prostituée qui est assise sur les grandes eaux. Les eaux que tu as vues représentent des peuples, des foules, des nations et des langues. » Daniel voit donc quatre vents agiter la mer. Le mot pour vent veut aussi dire esprit ou ange. Cette scène indique une intervention de Dieu dans les affaires humaines par l'intermédiaire d'anges. En principe, le vent ne souffle que dans une seule direction à la fois, et ce n'est que lorsqu'il rencontre des obstacles qu'il dévie de sa trajectoire initiale. Mais ce que Daniel voit est une mer très perturbée par des vents qui soufflent dans toutes les directions en même temps. Cette vision décrit les soubresauts qui conduisent à la naissance des quatre empires dont il va être question, et surtout du quatrième, Rome, car de ce dernier naîtra un jour une petite corne qui a une bouche qui parle avec arrogance. Une référence à l'Antichrist qui, entre sa propagande et ses stratagèmes, réussissait à embobiner une grande partie du monde entier, du moins pendant un certain temps. Quand Jésus dit à sa génération « Je suis venu au nom de mon Père et vous ne me recevez pas, si un autre vient en ce propre nom, vous le recevrez. » Il fait allusion à l'apparition de l'Antichrist qui sera le bras droit de Satan, puis Jésus ajouta « D'ailleurs, comment pourriez-vous parvenir à la foi alors que vous voulez être applaudis les uns par les autres et que vous ne recherchez pas la gloire qui vient de Dieu seul ?» Déjà au premier siècle, mais en fait depuis la rébellion de nos premiers parents, l'humanisme est une philosophie en vogue. Aujourd'hui, on élève et rend gloire à tous ceux qui ont une fonction soi-disant importante dans la société, que ce soit dans le monde politique, religieux, des affaires ou de l'audiovisuel. Les acteurs en particulier sont des idoles au sens propre du terme. Ces stars, comme on les appelle, ont fait du cinéma un endroit respectable, alors que moralement, il ne l'est pas du tout. Aujourd'hui, la situation s'est encore dégradée vers la multiplication des jeux vidéo, qui ne sont pour la plupart qu'un vulgaire amalgame de sexes et de violences. L'argent est la source de cette corruption, et c'est encore l'argent qui propulsera l'Antichrist au pouvoir. Je continue le texte de Daniel. Quatre bêtes énormes, différentes les unes des autres, surgirent de la mer. La première ressemblait à un lion avec des ailes d'aigle. Tandis que je la regardais attentivement, ses ailes lui furent arrachées. Elle fut soulevée de terre et dressée sur ses pieds comme un homme. Un cœur humain lui fut donné. Ces monstres qui se succèdent sortent de la masse humaine. Il s'agit des quatre rois ou empires qui, dans la statue de Nabucodonosor, sont représentés par l'or, l'argent, le bronze, le fer mêlé d'argile. Ces métaux symbolisent les empires babyloniens, nébo-perses, grecs et romains. Ils sont différents, non pas en puissance, mais en étendue et dans leur façon d'agir, car ils n'ont pas, pourrait-on dire, la même personnalité. Le premier monstre est un assemblage de lions et d'aigles dont l'équivalent est la tête en or de la statue. Le lion est le roi et le plus noble des animaux terrestres, et l'aigle, le roi des oiseaux. La caractéristique du lion est sa puissance et sa brutalité. Les aigles représentent la rapidité de déplacement et de manœuvre des armées babyloniennes, mais peut-être aussi l'arrogance de Nabucodonosor, qui voulait s'élever et se faire Dieu. En très peu de temps, ses armées écrasent les forces assyriennes et égyptiennes et conquièrent toute la Palestine. Un général américain a dit « Le premier arrivé avec le plus d'hommes et de matériel est celui qui gagne. » C'est de cette manière que Babylone, Alexandre le Grand, Jules César et ses successeurs, et plus tard Napoléon, ont triomphé des autres nations et établi leur empire. Aujourd'hui, dans une armée, a la maîtrise des airs, tôt ou tard, elle remporte la victoire. Pendant la Seconde Guerre mondiale, dès que les avions alliés ont dominé le ciel, ce n'était plus qu'une question de temps avant que l'Allemagne puis le Japon soient obligés de capituler. Après avoir été l'emblème des souverains assyriens, le lion devint celui des rois chaldéens. On a découvert d'énormes sculptures de lions ailés, marquant l'entrée des palais des souverains babyloniens. De plus, dans les Écritures, Nabucodonosor, le plus grand et le plus glorieux des potentats, est comparé à la fois à un lion et à un aigle, tout comme son armée. Alors que Daniel regarde la scène qui se déroule dans sa vision, les ailes du lion sont violemment arrachées et un cœur d'homme lui est donné. C'est une référence à l'humiliation sévère de Nabucodonosor quand il a perdu la raison et s'est mis à brouter de l'herbe parce qu'il se prenait pour un bof. Mais après cette année de ce régime, il reconnaît enfin la souveraineté de l'Éternel. C'est alors un homme transformé au niveau moral et spirituel, ce qui rend le reste de son règne plus humain, car il est guéri de sa folie des grandeurs et de sa prétention de s'élever jusqu'au ciel. Ce qui est arrivé à Nabucodonosor est un enseignement pour nous, car il montre que l'orgueil attire la foudre divine, mais aussi que Dieu accorde sa faveur ou sa grâce aux humbles. Je continue le texte du chapitre 7 du livre de Daniel. Et voici que surgit une deuxième bête, ressemblant à un ours. Elle était dressée sur un côté et tenait dans sa gueule trois côtes entre ses dents. J'entendis qu'on lui disait « Debout, mange, beaucoup de chair ». L'ours est un animal très puissant à cause de sa taille, mais aussi très lent comparé à un lion avec des ailes. Il représente l'empire des Mèdes et des Perses, qui est plus étendu que celui de Babylone, mais son armée innombrable est bien moins agile que celle des Chaldéens. En l'an 480 avant Jésus-Christ, 10 ans après la défaite du Perse Darius contre les Grecs à Marathon, le roi Xerxès Ier veut laver l'affront qu'a subi son prédécesseur. Il attaque la Grèce avec plusieurs centaines de milliers d'hommes et une armada de 400 navires. Il réussit à grand-peine et grâce à une trahison à vaincre les Grecs sur terre à Thermopyle et il incendie Athènes, mais plus de la moitié de sa flotte est détruite. Et l'année suivante, il est battu par les Grecs. Ce n'est pas encore la fin du grand empire perse, mais son déclin est évident. Et un observateur attentif peut déjà discerner des signes avant-coureurs de l'empire grec, le prochain sur le calendrier divin. L'ours est équivalent à la poitrine et au bras d'argent de la statue du rêve de Nabucodonosor. Dans la vision de Daniel, il est dressé sur un côté. Ce que cela signifie, c'est que l'un des deux alliés a la prépondérance sur l'autre. Depuis le fondateur de la dynastie Mède, ses rois règnent d'abord sur les Mèdes, puis sur les Perses. Mais après la venue de Cyrus, cet équilibre est inversé et la Perse domine les Mèdes. Voilà pourquoi, dans la vision de Daniel, l'ours est plus élevé sur un côté. Le livre de Daniel fait une distinction entre le roi Mède Darius et le roi perse Cyrus, mais il considère que Babylone est sous la tutelle d'une seule monarchie, l'alliance Mède-Perse. D'ailleurs, plus loin, ces deux peuples sont représentés par un seul animal, le bélier à deux cornes. Tout ça pour dire qu'il n'est pas possible de scinder les Mèdes et les Perses comme le font certains commentateurs d'obédience libérale et de la considérer à part dans la prophétie de Daniel. Que ce soit la poitrine et les bras en argent de la statue de Nabucodonosor ou l'ours dans la vision de Daniel, ces visions représentent l'alliance Mède-Perse. Ces réflexions sont un peu barbares, j'en conviens, mais elles permettent aussi d'interpréter correctement les Écritures. Les trois côtes dans la gueule de l'ours sont une image des vastes conquêtes de l'Empire médo-perse dans trois directions, l'ouest, le nord et le sud. L'ordre donné à l'animal de se lever ne veut pas dire qu'il est couché, puisqu'il vient tout juste de sortir de la mer. Cette apostrophe signifie « vas-y en avant et mange beaucoup de chair », exprime l'avidité avec laquelle cet empire s'est emparé des richesses des peuples conquis. L'ordre signifie donc « accomplis ton rôle dans l'histoire et que rien ne t'arrête ». Je continue le texte. Après cela, je continuai à regarder et je vis un autre animal qui ressemblait à un léopard, avec quatre ailes d'oiseau sur le dos et quatre têtes. Le pouvoir lui fut donné. Ce fauve correspond au ventre et aux hanches en bronze de la statue de Nabucodonosor et représente la Grèce. Le léopard est un animal particulièrement agile et rapide, qui peut faire soudainement de très grands bonds. Si, en plus, on lui ajoute quatre ailes, ce monstre va se déplacer à une vitesse vertigineuse sans toucher terre. Et effectivement, en l'espace de 4 ans environ, Alexandre le Grand conquiert la totalité de l'Empire perse, dont Babylone, et l'Égypte, où il fonde Alexandrie. Ensuite, il va jusqu'en Inde, mais l'épuisement de ses troupes l'oblige de revenir en Perse. En l'espace de 8 ans, son armée a parcouru 18 000 kilomètres. Alexandre le Grand échange alors son rôle de conquérant pour celui d'administrateur et tente d'imposer son hégémonie. Il réorganise son empire et accorde les mêmes droits aux Perses qu'aux Macédoniens, sa patrie. Il crée une monnaie unique et impose le grec comme langue internationale. Mais il décède subitement à Babylone à l'âge de 33 ans, alors qu'il prépare de nouvelles conquêtes. Les 70 villes qu'il a fondées pendant son règne répandent la culture grecque en Méditerranée orientale et en Perse. Alexandre instaure un culte impérial qui servira de modèle au César romain. Après sa mort, ses quatre généraux se partagent le gâteau, c'est-à-dire son empire. Ils prennent le titre de roi, qui sont représentés par les quatre têtes de léopard. Deux d'entre eux, l'Égypte et la Syrie, sont constamment en guerre, chacun cherchant à dominer l'autre et à contrôler la Palestine. Dans le chapitre suivant, il est question d'un autre monstre, un bouc, avec une grande corne qui se brise et qui est remplacée par quatre autres. Ce bouc aussi représente les quatre généraux d'Alexandre le Grand, lui-même étant la grande corne qui se brise. Je continue le texte. Après cela, dans mes visions nocturnes, je vis surgir une quatrième bête, effrayante, terrifiante, et d'une force extraordinaire. Elle avait d'énormes dents de fer. Elle dévorait, déchiquetait et piétinait ce qui restait de ses victimes. Elle était bien différente des bêtes qui l'avaient précédée. Elle avait aussi 10 cornes. La répétition, dans mes visions nocturnes, annonce un nouveau venu. Il s'agit d'un monstre plus terrifiant que les précédents. Alors que Daniel compare les trois premières bêtes qui lui sont apparues à des animaux qu'on peut voir dans un zoo, comme un lion, un aigle, un ours ou un léopard, ce dernier monstre, n'ayant rien de naturel, Daniel n'essaie ni de l'identifier ni de lui donner un nom. Cependant, tout porte à croire que dans la vision qu'il reçoit, l'apôtre Jean voit la même chose que Daniel, car il dit que cette bête, qu'elle possède 10 cornes, exactement comme le monstre de Daniel. Je lis ce passage de l'Apocalypse de Jean. Alors je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes. Elle portait sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes étaient inscrits des titres insultants pour Dieu. La bête que je vis avait l'allure d'un léopard, ses pattes ressemblaient à celles d'un ours et sa gueule à celle d'un lion. Le dragon lui donna sa puissance, son trône et une grande autorité. Le quatrième monstre que Daniel voit dans sa vision correspond à l'Empire romain. Il est représenté par les jambes en fer et les pieds qui sont un mélange de fer et d'argile de la statue de Nabucodonosor. Alors que les trois fauves précédents sont féroces et détruisent tout sur leur passage, ce monstre-ci est bien pire. Quand Daniel a interprété ce quatrième empire au roi de Babylone, il a dit « Il sera dur comme le fer pulvérise et écrase tout et le met en pièces. Ainsi, il pulvérisera et mettra en pièces tous les autres royaumes. » Ce qui correspond bien à la quatrième bête effrayante, terrifiante, d'une force extraordinaire qui a d'énormes dents de fer, dévore, déchiquette et piétine ce qui reste de ses victimes. Ce quatrième monstre est très différent des précédents, ce qui explique aussi pourquoi Daniel s'attarde davantage sur lui que sur les trois autres. La principale caractéristique du premier monstre est sa majesté, du second sa voracité, du troisième son agilité, et du quatrième sa force brutale, sa férocité et sa formidable puissance de destruction. Avec ses dents de fer, c'est davantage une machine à broyer qu'un animal. Il ne connaît pas la pitié et lui résister est fatal. Comme je l'ai déjà dit, les 10 cornes de ce monstre correspondent aux 10 orteils de la statue. Or, dans le symbolisme des textes sacrés, la corne représente le pouvoir et la force, et le chiffre 10 est un ensemble, une totalité. Plus loin, il est dit qu'il s'agit de rois ou d'états. Ils ne se succéderont pas, mais existeront ensemble. Le quatrième empire sera donc constitué de plusieurs entités qui établiront une alliance. L'Empire romain commence par absorber l'Égypte, la Syrie, les Balkans et la Grèce, puis continue à faire tache d'huile pour atteindre son zénith sous l'empereur César Auguste. Il surpasse tous les grands empires précédents et rien n'échappe à sa puissance. L'Empire romain est le premier qui a des frontières en Orient et en Occident. Il devient tellement grand qu'il est impossible à quiconque de le fuir. Or, c'est au moment où Rome atteint son apogée que se déroule la première phase du royaume de Dieu avec l'apparition de Jésus-Christ, né sous César Auguste. Puis en même temps que l'Église se développe, l'Empire subit des coups de boutoir, des invasions barbares qui réussissent à le disloquer à cause de sa corruption interne. Il se divise alors progressivement en une multitude d'États qui sont représentés dans la vision de Daniel et de Nabucodonosor par les 10 cornes ou les 10 orteils. Dans l'avenir, l'Empire romain se reconstituera sous la botte d'un nouveau César appelé la petite corne, l'Antichrist. Mais après 7 ans de règne a lieu la seconde phase du royaume de Dieu avec le retour en gloire du Messie, qui triomphe de ses ennemis puis établit son royaume de 1000 ans sur la terre. Un jour, ces prophéties sortiront des pages des textes sacrés pour s'accomplir et faire là une des journaux.